Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant le complot meurtrier contre Jésus. Nous arrivons à l'étude numéro 4 et nous commencerons par Saint Matthieu chapitre 26 verset 42 où il est dit « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté seule soit faite. » Chers amis, étant de langue allemande, j'utilise parfois plusieurs versions bibliques, y compris The Amplified Bible. C'est pour cela qu'il peut arriver que quand vous vérifiez dans votre Bible française, qu'il y a peut-être des mots qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça s'appelle des synonymes qui veulent à peu près dire la même chose. Absolument. Ne pensez pas qu'on a le droit de ôter quoi que ce soit de ce saint livre. Jamais. Donc, chers amis, encore une fois, nous arrivons à l'étude numéro 4 et notre thème sera l'agonie dans le jardin. Donc, chers amis, à son entrée dans Gethsémané, Jésus sait déjà qu'on va l'arrêter pour lui faire subir toute une série de procès et d'humiliations qui le mènera implacablement à la croix. En fait, voici comment l'apôtre Jean décrit l'arrivée des soldats chargés d'appréhender Jésus. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous ?» Saint Jean chapitre 18 verset 4. On peut constater encore et encore que tous les auteurs des évangiles soulignent délibérément l'omniscience souveraine de Jésus tout au long de leurs récits respectifs de la crucifixion. Ils insistent toujours sur sa connaissance et sur sa maîtrise absolue de tout ce qui se passe autour de lui. Ils précisent tous que Jésus sait absolument tout ce qui doit lui arriver. Rien de ce qui se passe ce soir-là n'est donc fortuit. Jésus ne s'étonne absolument de rien. Il est parfaitement conscient de tout ce qui se produit. Rien n'échappe à son regard ni à celui du Père. Cela signifie également que Jésus comprend parfaitement tout ce que sa mort impliquera. Il anticipe toutes les souffrances, l'agonie, les railleries et l'humiliation qu'il devra endurer. Avant même d'entrer dans le jardin, il savait déjà tout ce qu'il allait devoir subir, mais il n'en est pas moins prêt à se soumettre entièrement à la volonté du Père afin d'accomplir le plan éternel de la rédemption. Ce soir-là, en lutte avec ses pensées, Jésus se montre des plus candides dans sa prière. Il s'agit d'ailleurs d'un des passages les plus étonnants que les plus mystérieux de toute l'Écriture qui révèle la lutte, cette lutte qui se livre en lui par rapport à la réalité terrifiante de ce qu'il est sur le point de subir. un passage qui nous fait merveilleusement voir le cœur du Dieu fait homme. Jésus, comme vous le savez, Jésus est entré dans Gethsémané avec ses disciples presque sur le coup de minuit. À une heure aussi tardive, tous accusaient une certaine fatigue, et on le comprend. Il faut dire qu'ils n'ont pas chômé de toute la semaine et de toute la journée. Mais Christ a plus important à faire dans le jardin que dormir, et rien ne l'empêchera d'y prier. Rappelons-nous que Christ était pleinement humain dans tous les sens du terme. Il connaissait les mêmes, on peut dire, les mêmes limites physiques que nous, les humains. Il ressentait donc, lui aussi, la fatigue. Saint Jean chapitre 4, verset 6 et Saint Marc chapitre 4, verset 38. Il savait ce que était la faim. Saint Matthieu chapitre 21, verset 18. Il pouvait souffrir de la soif comme n'importe quelle personne normale. Saint Jean chapitre 4, verset 7 et chapitre 19, verset 28. Il ressentait également toute la gamme des émotions humaines. Et c'est pourquoi on l'a parfois vu pleurer. Notez Saint Jean chapitre 11, verset 35 et Saint Luc chapitre 19, verset 41. Je vous cite toutes ces citations bibliques pour que vous puissiez contrôler vous-même que vraiment on vous dit pas autre chose que ce qui est écrit dans le Saint-Livre. L'Écriture ne le décrit jamais explicitement en train de rire, mais on aurait tout à fait tort d'en conclure qu'il ait vécu en abordant une mine sombre. On sait qu'il pouvait se réjouir, surtout lorsque des pécheurs pouvaient parfois se convertir, ce qui n'est pas toujours évident, surtout de nos jours, c'est encore pire. Saint Luc chapitre 15, verset 4 à 32. La réputation qu'il avait parmi les pharisiens ne le présente certainement pas comme un solitaire austère, mais plutôt comme un ami, ami des publicains et des gens de simple vie de tous les jours, joyeux et sociable. Saint Luc chapitre 7, verset 34. Comme nous, il était pleinement humain à tous les égards, exception faite de notre nature pécheresse. Si l'Écriture sainte semble insister davantage sur sa douleur et son chagrin que sur sa joie, eh bien c'est simplement qu'il est d'un tel réconfort pour nous de savoir, dans les moments difficiles, que Jésus a connu toute la profondeur de la douleur humaine, et cela à un degré tel que nous ne pouvons pas même l'imaginer. Jamais âme vivante n'aura exhalé tant de douleur. Nous ne pouvons comprendre la profondeur de l'agonie de Christ, car nous ne pouvons franchement pas percevoir l'iniquité du péché aussi bien que lui. De même, il nous est impossible de juger des terreurs qu'engendre la colère divine aussi bien que lui. Voilà donc pourquoi la douleur qu'il exprime ici dans sa prière à Gethsémané dépasse notre entendement. Il est clair que non seulement le sens intégral de sa prière nous échappe, mais aussi toute une mine de renseignements contenus dans ce passage. Voici comment saint Matthieu rapporte les événements. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Alors il a pris avec lui l'apôtre Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi. » Et il vint ensuite vers les disciples, qu'il trouva, hélas, endormi. Et il dit à l'apôtre Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une seule heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est souvent bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Vous pouvez vérifier saint Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 44. Dans le passage à l'étude, trois aspects du combat incompréhensible que livre Jésus sont mis en lumière. Premièrement, son affliction. Deuxièmement, ses supplications. Et troisièmement, sa soumission. Donc, premièrement, nous avons son affliction. Les disciples connaissent bien Gethsémané. Selon l'apôtre Jean, même Judas savait très bien où Jésus allait se trouver ce soir-là, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Saint Jean chapitre 18, verset 2. Il s'agit très probablement d'une oliveraie entourée d'un mur, percée vraisemblablement d'une seule entrée, où Jésus a laissé la plupart de ses disciples pour aller prier à l'intérieur avec Pierre, Jacques et Jean. Notons que ces trois disciples constituent, on peut bien le dire, le noyau du cercle de Jésus. Le Maître leur a souvent permis de l'accompagner à des occasions spéciales, alors qu'il ne le permettait pas aux autres. Saint Marc chapitre 5 verset 37 et Saint Matthieu chapitre 17 verset 1. Pourquoi a-t-il pris ces trois-là avec lui? Premièrement, dans leur intérêt. Ils ont ainsi le privilège d'être témoins du combat que Jésus livre à son heure la plus sombre. Par son exemple à lui, ils apprendront une leçon précieuse sur l'art de surmonter les afflictions. Et même s'ils ne cessent de s'endormir, ils peuvent suffisamment voir Jésus prier pour leur donner une bonne idée de l'incroyable profondeur de son agonie. Il se peut que les disciples que Jésus a laissés à la porte du jardin aient l'habitude d'y monter la garde afin d'empêcher quiconque de déranger le Seigneur tandis qu'il prie. Or ce soir-là, ils devraient aussi prier pour eux-mêmes, car après tout, Jésus vient tout juste de leur dire qu'une épreuve terrible les guette. Ils peuvent voir qu'il est troublé. Il a tout fait pour les prévenir du danger imminent. Selon saint Luc, Jésus les exhorte tous ainsi. Il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Saint Luc, chapitre 22, verset 40. Pour sa part, saint Matthieu indique que Jésus réveillera Pierre, Jacques et Jean une première et une deuxième fois, leur rappelant son exhortation à chaque fois. Pourtant, rien ne laisse croire que les disciples prononceront le moindre mot de prière. Rien n'indique non plus qu'ils offriront à Jésus le moindre soutien et encouragement. C'est pas drôle du tout cela. Voilà qui est typiquement du cœur pécheur que nous sommes, et moi y compris. Dans notre état charnel et déchu, nous sommes souvent inconscients de notre propre pauvreté et faiblesse spirituelle. Pourtant, malgré sa parfaite innocence, Christ est tout à fait conscient de la faiblesse de la chair et ne peut dormir tandis que son besoin de communier avec Dieu est si présent. Les disciples, quant à eux, sont tous tombés endormis à leur poste. Ils succombent donc à la fatigue qu'ils ressentent tous. Saint Luc indique également que leur profonde tristesse les incite aussi au sommeil. Notez Saint Luc chapitre 22 verset 45. Il est vrai qu'un état dépressif et la confusion peuvent porter à vouloir dormir. Leur esprit troublé, il y a de quoi, cherche à s'évader. Alors ils tombent endormis, abandonnant Jésus à ses angoisses. Quand Jésus déclare ici à ses disciples que la détresse lui étreint tellement le cœur qu'elle le mène au seuil de la mort, on peut le prendre au pied de la lettre. L'agonie qu'il subit dans le jardin suffirait littéralement à le tuer, ce qui aurait pu se produire si Dieu ne lui réservait pas une mort différente. À ce sujet, on rapporte que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombent à terre. Saint Luc chapitre 22 verset 44, ce qui décrit une maladie rare mais bien documentée, connue sous le nom d'hématidrose, qui se produit parfois lorsque survient une très grande détresse émotive. Pourquoi une telle agonie? Il peut sembler naturel de présumer qu'il redoute les souffrances physiques associées à la croix et les tortures qui l'attendent en route vers Golgotha. Mais beaucoup d'autres ont vécu la crucifixion sans toutefois suer du sang en y pensant. Il est donc impensable que le Fils de Dieu subisse une agonie aussi incommensurable par crainte de ce que les hommes peuvent lui faire. En effet, n'a-t-il pas dit lui-même, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Saint Matthieu chapitre 10, verset 28. Ce n'est donc certainement pas la mort en soi qui trouble son âme aussi violemment. Après tout, il est venu sur terre précisément pour y mourir. C'est l'heure pour laquelle il est venu parmi nous. Il est donc inconcevable qu'il remette sa mort en question maintenant qu'il touche au but. Rappelons-nous cette prière que Jésus a faite antérieurement en public. Il a dit « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Saint Jean chapitre 12, verset 27. Ici, dans le jardin, voici toutefois sa prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, serait-il en train, oui, on se pose la question, serait-il en train de remettre sa mort en question? Prie-t-il pour être délivré de la croix? Souhaitant éviter cette conclusion, certains commentateurs ont suggéré que la coupe de laquelle il demande à être délivré correspond en fait à la menace d'une mort prématurée dans le jardin. Selon leur interprétation, il prie pour que le plan de la rédemption ne déraille pas si jamais il devait mourir avant d'atteindre la croix. Cependant, voyez-vous, ce raisonnement ne tient aucun compte du sens biblique du mot « coupe ». Notons que peu après, lorsque Jésus se fera arrêter et que l'apôtre Pierre tentera de s'y opposer par l'épée, Jésus dira à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Saint Jean, chapitre 18, verset 11. Il est donc évident que le Père lui donnera bel et bien la coupe à boire. Qu'est-ce que cette coupe ? Eh bien, ce n'est pas simplement la mort, non plus que les souffrances physiques associées à la croix. Ce n'est non plus le fouet de l'humiliation. Ce n'est pas l'horrible soif, la torture des clous qui transperceront son corps, ni la disgrâce de se faire cracher dessus ou battre. Ce n'est pas même toutes ces choses combinées. Tout cela correspond aux choses que Jésus a lui-même dit de ne pas craindre, quand il a dit, « Je vous le dis à vous, qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. » Saint Luc chapitre 12, verset 4. Alors, quoi qu'il a ajouté, je vous montrerai qui vous devez vraiment craindre. S'il vous plaît, craignez surtout celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de vous jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est surtout lui que vous devez craindre. Verset 5. Manifestement, ce que Jésus redoute le plus par rapport à la croix, la coupe dont il demande à être délivré, si possible, c'est d'essuyer la colère divine que son Père Saint déversera sur lui. La coupe constitue donc un symbole bien connu de l'Ancien Testament qui représente la colère divine contre le péché. Rappelons-nous ce que a écrit Ésaïe dans Ésaïe chapitre 51, verset 17. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement. À une autre ou à un autre prophète, le Seigneur a dit, « Prends de ma main cette coupe qui est remplie de vin, du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et seront un peu comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. » Jérémie chapitre 25, versets 15 et 16. Pour ajouter par la suite, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous et vomissez, et tombez, sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Verset 27 de Jérémie chapitre 25. Ainsi, en priant pour que si possible la coupe lui soit épargnée, Jésus parle de la coupe du jugement divin. N'allez pas vous imaginer un seul instant que Jésus-Christ puisse redouter les souffrances terrestres associées à la crucifixion. Il ne tremblerait jamais devant ce que les hommes pourraient lui faire. Il y a en lui pas même l'ombre de la peur de l'homme. Mais le lendemain, il va porter les péchés de beaucoup d'hommes. Hébreux chapitre 9, verset 28. Et la colère divine le frappera dans toute sa plénitude. D'une manière mystérieuse que l'esprit humain ne saurait concevoir, Dieu le Père détournera sa face de son Fils Jésus-Christ, qui essuiera toute la force de la fureur divine qui est déversée contre le péché. Rappelons-nous ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ésaïe 53, verset 10. Ainsi, lorsqu'il sera pendu à la croix, il portera le péché de son peuple et il subira la colère de Dieu. Il la subira à sa place. Le Nouveau Testament présente d'ailleurs la croix en termes comparables. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, pour moi, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Autrement dit, sur la croix, Dieu imputera nos péchés à Christ qui châtiera à cause d'eux, qu'il châtiera à cause d'eux. 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Donc, le prix du péché que portera Jésus, c'est toute la fureur de la colère divine qu'il payera en entier. Voilà d'ailleurs qui explique son cri d'angoisse quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Saint Matthieu, chapitre 27, verset 46. Cette exclamation qu'il laissera échapper à la croix et qui exprimera l'extrême amertume de la coupe qu'il devra boire. rien d'étonnant à ce qu'il souhaite y être soustrait, et on le comprend. Ne réalise-t-il pas qu'il ne peut échapper d'aucune façon à cette coupe? Bien sûr, il le réalise. Alors pourquoi prie-t-il de la sorte dans le jardin? Parce qu'il exprime ainsi avec sincérité toutes les craintes qu'il éprouve à l'instant même. Ce n'est pas qu'il espère échapper au rôle de celui qui doit porter le péché, ce qui est manifestement dans le reste de sa prière. Toutefois, a-t-il dit dans Saint Matthieu chapitre 26, verset 39, « Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On remarquera également la fin de sa deuxième prière, quand il dit « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Verset 42. Au fur et à mesure que s'intensifie l'agonie de Jésus, ainsi en va-t-il de sa détermination à accomplir la volonté de son Père. Par sa prière, Jésus exprime avec sincérité sa passion humaine qu'il soumet systématiquement à la volonté de Dieu. Lorsque Jésus s'est fait homme, il a aussi revêtu toutes les faiblesses naturelles de l'humanité, sauf pour celles qui sont vraiment pécheresses, comme ceci nous le rappelle. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, bien au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. Ainsi comme nous l'avons fait remarquer au début de cette présente étude, Jésus-Christ a vécu toutes les infirmités de la nature humaine à l'exception du péché. Il a ressenti la fatigue, la soif et la douleur. Et ici, on peut dire, dans le jardin, il ressent la plus profonde des tristesses, oui, des craintes et des angoisses de l'âme, et cela même jusqu'à la mort. Sa prière constitue donc simplement l'effusion de ses sentiments tout à fait humaines. Elle nous révèle l'humanité de Jésus aussi clairement que tout autre passage de l'Écriture sainte. Nulle part la Sainte Bible ne déclare que la divinité de Jésus fait de lui quelque chose de beaucoup plus qu'un homme ou d'autres humains. En effet, l'Écriture sainte ne permet jamais à la nature divine de Christ d'éclipser ou de diminuer sa nature humaine. Bien au contraire. Tout ce que l'Écriture sainte révèle sur le rôle de Jésus en tant que notre Sauveur dépend du fait qu'il était pleinement homme. Cela fait ainsi souligner que, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux chapitre 2, verset 17. Notre Seigneur n'a pas joué à être humain, mais il s'est fait homme dans tout le sens du terme. Il a revêtu toutes nos infirmités, à l'exception de nos péchés. Ici, dans le jardin, son humanité se manifeste aussi clairement qu'en toutes autres occasions de son ministère. Nous pouvons donc certainement comprendre ses émotions, l'horreur qu'il lui inspire, que Dieu attend de lui, la consternation que lui inspire la réalité de ce qui lui en coûtera, et le désir profond d'éviter la colère de Dieu, si cela était possible. Tout cela contribue donc à la détresse qu'il ressent à l'approche de la croix. Bref, Jésus est affligé parce qu'il sait que toute la culpabilité de tous les péchés, de tous les rachetés du monde et de tous les temps lui sera imputée et qu'il devra porter tout le poids de la colère divine à la place des autres. Le Saint-Fils de Dieu, qui n'a pas même commis la plus infime des péchés, sera fait péché pour eux, pour nous tous. Il sera la cible de la fureur de Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Or, cette seule pensée lui fait littéralement suer du sang. Deuxièmement, nous avons ses supplications, les grandes appréhensions que la croix inspire à Jésus sont l'expression naturelle de l'émotion humaine. Son désir d'échapper à la colère de Dieu est normal et parfaitement compréhensible. Mais ce désir, ainsi que toutes ces émotions humaines, eh bien oui, il doit le soumettre consciemment et délibérément à la volonté de Dieu son Père. Les sentiments qu'il éprouve ne sont pas un péché en soi. Ce qu'il serait, ce serait pour lui d'entretenir des sentiments et des préférences humaines aux dépens de la volonté de Dieu. Or Jésus le sait. C'est pourquoi sa vie entière se caractérise par une soumission constante, systématique, préméditée et délibérée à la volonté de son Père. Rappelons-nous ce qu'il a dit. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Johannes, Saint Jean, chapitre 8, verset 29. Il dit ensuite, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Chapitre 4, verset 34 de Saint Jean. Et il dit encore, je ne peux rien faire de moi-même, d'après que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas du tout ma volonté propre, mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Chapitre 5, verset 30. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Chapitre 6, verset 38, toujours de Saint Jean. Les paroles de sa prière dans le jardin reflètent donc simplement la manière dont cette soumission se concrétisera. Par sa prière, Jésus-Christ exprime avec sincérité les sentiments humains qu'il habite. Il redoute franchement d'essuyer la colère du Père et préférerait y échapper si cela était vraiment possible. Mais pourquoi, pourquoi fait-il cette prière à cette heure-ci? Après tout, il a convenu avec Dieu son Père, et cela de toute éternité, qu'il allait mourir en sacrifice expiatoire pour les péchés de ce monde. Il doit bien savoir depuis toujours qu'il ne peut échapper à la coupe de la colère de Dieu puisqu'elle s'inscrit dans cette œuvre expiatoire. Tout cela est absolument vrai, mais Jésus doit ressentir ce fardeau comme il ne l'a jamais ressenti auparavant dans sa vie d'êtres humains. Le Christ Jésus, qui a été fait homme, il voit ici son heure approcher. Tous ces sentiments humains normaux s'identifient au fil du temps. Au seuil de la crucifixion, toute sa tristesse et toutes ses craintes lui serrent le cœur. De sa prière jaillissent ses passions, preuve qu'il est bel et bien humain, humain dans tous les sens du terme. Sa prière du jardin, elle correspond à un autre dessein divin, elle sert d'exemple à l'apôtre Pierre et aux autres apôtres, et bien entendu, Jésus sait déjà qu'il n'a aucun moyen d'échapper à la colère de Dieu son Père. Il ne peut se demander sérieusement si ce genre de choses peuvent être évitées. Et pourtant, il y a bien une raison pour laquelle il fait cette prière à voix haute. Oui, Jésus prie fréquemment à haute voix pour le bien de tous ceux qui l'écoutent. Saint Jean, chapitre 11, verset 42. Donc, tout porte à croire qu'il prie ici tout haut, en partie dans l'intérêt des apôtres qui l'écoutent à proximité. On se rappellera qu'en amenant l'apôtre Pierre, Jacques et Jean avec lui dans le jardin, eh bien, il leur a demandé de l'attendre tout près et de veiller avec lui, sachant que l'ennemi Satan s'apprête à les cribler comme le froment. Jésus formule donc une prière dont ils pourront vraiment s'inspirer et qu'ils auraient tout intérêt à écouter avant de s'endormir. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus mêle aux supplications qu'il adresse au Père des exhortations qu'il fait à ses disciples. On remarquera ces paroles où il dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. » Saint Matthieu 26, verset 41. À l'heure même, Jésus lutte avec les infirmités de sa propre humanité. Il ne s'agit pas encore ici d'infirmité pécheresse, pas du tout, ni de passion, ni d'appétit et de sentiments humains. Non, ils ne sont pas soumis à la volonté divine, ils peuvent donc conduire au péché. Voyez-vous, les paroles de la prière de Jésus révèlent une intimité très touchante entre le Père et son Fils. Chaque fois qu'il prie, il appelle toujours Dieu son Père, son Père. La seule exception, il y en a une, c'est lorsqu'il sera sur la croix, portant tout le poids de la colère divine et qu'il priera en araméen, le fameux psaume 22, verset 2, où il dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani », qui se traduit par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sabachthani. Saint Marc, chapitre 15, verset 34. Or, pour les chefs religieux de l'époque, il est peu orthodoxe de s'adresser à Dieu comme au Père, pratique qu'ils jugent beaucoup trop familière et intime. En fait, ils ont cherché à faire mourir Jésus à plus d'une occasion du fait simplement qu'il appelle constamment Dieu son Père, comprenant avec raison qu'en se déclarant ainsi, il se déclare être son Fils. Il se fait donc l'égal absolu de Dieu. Saint Jean chapitre 5 verset 18 et chapitre 10 verset 30 à 31, à 33, excusez-moi. Le fait que Jésus soit le Fils unique et éternel de Dieu établit son égalité éternelle avec Dieu, selon Hébreux chapitre 1 verset 4 à 8. N'est-il pas effectivement le Fils unique de Dieu ? Certes, et tous les chrétiens sont également appelés ses fils, mais nous sommes ses fils par adoption, selon Galates chapitre 4, versets 4 et 5. Donc, je répète, nous, vous et moi, nous sommes les fils de Dieu notre Père par adoption. En tant que tel, Jésus a même enseigné à ses disciples à prier Dieu en l'appelant Père, Papa. Ici cependant, on trouve le seul passage dans toute l'Écriture où Christ prie Dieu en l'appelant Mon Père. C'est Matthieu chapitre 26, versets 39 et 42, ce qui intensifie l'intimité que renferme l'expression. En fait, saint Marc indique qu'il prie ainsi, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Saint Marc chapitre 14, verset 34. Notons que Abba est l'équivalent araméen de papa, soit une désignation encore plus intime, voire même enfantine, qui est empreinte de confiance et beaucoup d'affection. La prière de Jésus est avant tout une prière de soumission. L'essentiel de sa prière, la requête qui en est le pivot, ne vise pas l'évitement. Jamais il veut éviter la coupe, mais elle a un but plus élevé qui se reflète dans sa demande répétée « Que ta volonté seule soit faite. » Saint Matthieu chapitre 26 verset 42. On remarquera que chacune des vagues de sa prière met l'accent sur la même chose. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Verset 39. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Verset 42. Il les quitta et il s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Verset 44. Son désir humain naturel, c'est d'éviter si possible le terrible jugement qu'il est sur le point de subir. Mais son désir suprême, la réponse à la prière qu'il supplie Dieu d'exaucer, c'est que la volonté de Dieu soit faite et non pas la sienne. Merci Seigneur de m'aider à plus de 90 ans que ma parole puisse être audible jusqu'au bout, car ce n'est pas évident. Merci que ton Saint-Esprit a pris ma bouche, ma gorge, mon esprit, pour me guider, pour m'inspirer, car sans toi, à mon grand âge, ce serait absolument impossible. Chers amis, nous arrivons à troisièmement, et non, on l'a compris, il y a sa soumission. Lorsque Jésus prie non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi, il ne faut pas croire qu'il y ait un écart entre la volonté du Père et celle du Fils. En fait, c'est que le Fils soumet consciemment et délibérément et volontairement tous ses sentiments humains naturels à la volonté parfaite de son Père. Sa prière est l'exemple accompli du fait que dans son humanité, Jésus a toujours soumis sa volonté à celle du Père en toutes choses, précisément de sorte qu'il n'y ait aucun conflit entre la volonté divine et ses sentiments humains. Il y a une leçon poignante à tirer de tout cela. Il faut se rappeler que Jésus n'a aucun appétit de pécheur, aucun désir corrompu par le péché, ni aucun penchant pour le mal. Toutefois, s'il a dû soumettre ses appétits à ses passions, à la volonté de Dieu son Père, en s'y appliquant aussi délibérément, à combien plus forte raison devons-nous tous appliquer à soumettre notre cœur, notre âme et notre esprit, ainsi que notre force, à Dieu notre Père. Si nous voulons vivre à la gloire de Dieu notre Papa céleste, nous devons soumettre consciemment toutes nos infirmités, nos désirs, nos appétits et même notre propre volonté à la volonté divine. Jésus ne prie donc pas pour échapper à la coupe à tout prix, pas du tout. Il demande à en être épargné s'il existe un autre moyen de réaliser le plan de Dieu. Or, la réponse de Dieu à cette prière, elle prouve hors de tout doute qu'il n'y a aucun autre moyen d'accomplir la rédemption des pécheurs sans y sacrifier son propre Fils. Dieu n'envoie donc pas Jésus à la mort avec frivolité. S'il avait le choix, il agirait tout autrement, mais il ne l'a pas. Et c'est pourquoi Jésus n'échappera pas à la coupe. Il est d'ailleurs certain que Jésus ne l'ignore pas en faisant sa prière, car après tout, ils ont fait le tour de la question selon les desseins éternels de Dieu, avant même la fondation du monde, soit bien avant que Jésus ne vienne dans le monde. Jésus sait parfaitement que puisqu'il est appelé à être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, oui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il doit forcément essuyer la colère de Dieu, de son Père, pour accomplir sa mission. Ce fait laisse donc d'ailleurs entendre une raison de plus à la prière de Jésus. Il s'agit non seulement de l'expression sincère de ses passions humaines, soit le fait compréhensible qu'il redoute l'épouvantable réalité de la croix, non seulement d'un exemple important pour Pierre et pour les autres disciples, ainsi que tous les chrétiens de tous les temps, mais encore de la révélation du mystère entier tourant toute l'alliance conclue de toute éternité entre les personnes de la Trinité. Lorsque Dieu le Père et Dieu le Fils, conjointement avec le Saint-Esprit, se sont entendus pour racheter les élus, ils ont convenu que Jésus se ferait homme et qu'il allait mourir en guise de rançon. L'apôtre Paul parle d'ailleurs de cela dans son épître à Tite, qu'il entame ainsi. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Tite, chapitre 1, versets 1 et 2. Or, si Dieu a promis la vie éternelle avant tous les siècles, avant même qu'il existe une seule créature à qui faire cette promesse, envers qui donc s'est-il engagé, je vous le demande? Il est donc très clair qu'il s'agit d'une alliance que les personnes de la Trinité ont ensemble conclue pour la rédemption des élus. Précisons encore que 2 Timothée chapitre 1 verset 9 fait l'écho de Tite chapitre 1 verset 2. En effet, dans ce verset-là, l'apôtre Paul indique que Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant même les temps éternels. Autrement dit, nous avons la garantie éternelle de notre salut du fait que le Père en a fait la promesse à son Fils avant même le début des temps. Toute notre espérance de vie éternelle repose donc d'ailleurs sur cette promesse éternelle qui a été faite à Jésus-Christ. En raison de son amour éternel pour son Fils bien-aimé, Dieu le Père lui a promis un peuple racheté. Et voilà pourquoi Jésus a souvent parlé des rachetés comme de ceux que le Père lui a donnés. Saint Jean chapitre 17 verset 9, verset 11, verset 24 et chapitre 6 toujours de Saint Jean, chapitre 37 à 39. Pour sa part, Jésus-Christ s'est engagé à mourir pour leur rédemption, pour notre rédemption, pour expier les péchés. Il ne suffirait plus de sacrifier des animaux, il n'y avait qu'un seul moyen de racheter les élus. Un substitut humain absolument parfait et juste, qu'on ne pouvait y trouver ou on ne pouvait pas y trouver le moindre défaut, allait donc devoir payer à leur place, à notre place, le prix du péché. Or, seul le Fils de Dieu était à la hauteur de la tâche. En tant que partie prenante de l'alliance visant notre rédemption, Jésus-Christ s'est donc engagé à venir sur terre expressément dans l'intention d'y mourir en sacrifice pour notre péché. Et c'est ainsi qu'il s'est tendrement soumis à la volonté de son Père afin de racheter son peuple. Et voilà d'ailleurs le cœur même du passage suivant. Notez bien Hébreux chapitre 10, versets 4 à 9. Là il est dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, et tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce que on offre selon la loi. » Et il dit ensuite, « Voici, oui, voici, je viens pour faire ta volonté. » Hébreux chapitre 10, versets 4 à 9. « Ainsi, en se soumettant à la volonté du Père, Jésus lui témoigne son amour éternel. Ou si odieux et mystérieux cela puisse-t-il être de penser que le Fils est mort et que le Père déversera toute sa colère contre lui par ce sacrifice rédempteur, Jésus exprimera ainsi absolument tout son amour pour son Père et de toute éternité. Oui, de toute éternité, le Fils s'est donc soumis volontairement et délibérément à la volonté du Père, déterminant ainsi le chemin vers la croix. Voici donc la vérité principale que nous révèle la prière de Jésus dans le jardin. Ici, nous observons le processus entier qui a été décrit dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, où il est dit que Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Sa prière de Gethsémané nous laisse donc entrevoir son âme et son cœur, tandis qu'il se soumet ainsi au Père, et nous révèle que quel sacrifice formidable, incroyable, cela représente pour lui de mourir à notre place, à ma place. Au terme de sa prière, Jésus obtient la victoire qu'il cherchait. Il émerge donc de son agonie, en harmonie parfaite avec la volonté de son Père. Il est maintenant prêt à affronter la croix et à boire jusqu'à la lie la coupe amère de la colère du Père contre le péché. Ses ennemis approchent déjà. Or, le calme avec lequel Jésus les accueillera, ainsi que la grâce tranquille qu'il démontrera tout au long de la tragédie, prouve, hors de tout doute, que Dieu le Père a bel et bien entendu et a bel et bien exaucé le cri du cœur de son Fils bien-aimé à Gethsémané. Amen. Et demain matin, Dieu voulant, nous poursuivrons cette étude très, très importante. J'aimerais maintenant vous transmettre quelque chose pour votre enseignement personnel, mais aussi pour vous encourager. La vie d'un vrai chrétien doit être pleine de toutes les vertus, de sorte qu'il soit tel intérieurement qu'il paraît devant les hommes. Et certes, il doit être encore bien plus parfait au-dedans qu'il ne le semble au-dehors, parce que Dieu nous regarde et que nous devons, partout où nous sommes, le révérer profondément et marcher en sa présence pure comme des anges. Nous devons chaque jour renouveler notre résolution, nous exciter à la ferveur, comme si notre conversion commençait aujourd'hui seulement, et dire, Aide-moi, Seigneur, dans mes saintes résolutions et dans votre service. Donnez-moi de bien commencer maintenant, car ce que je fais jusqu'ici n'est rien. La fermeté de notre résolution et la mesure de notre progrès est une grande diligence et nécessaire à celui qui veut avancer. Si celui qui forme les résolutions les plus fortes se relâche souvent, que sera-ce de celui qui n'en prend que rarement ou qui n'en prend que de faibles? Toutefois, nous abandonnons nos résolutions de diverses manières et la moindre omission dans nos exercices a presque toujours quelque suite fâcheuse. Les justes dans leurs résolutions comptent bien plus sur la grâce de Dieu que sur leur propre sagesse, et quelque chose qu'ils entreprennent, c'est en lui seul qu'ils mettent leur confiance. C'est l'homme qui propose, mais Dieu dispose. Si nous omettons quelquefois nos exercices ordinaires pour quelque motif pieux ou pour l'utilité de nos frères et sœurs, il ne sera facile ensuite de réparer cette omission. Mais si nous les abandonnons sans sujet, par ennui ou par négligence, c'est une faute grave et qui nous sera funeste. Vous ne pouvez pas continuer vous recueillir, mais recueillez-vous au moins de temps en temps, au moins une fois le jour, le matin ou le soir. Le matin, formez vos résolutions. Le soir, examinez votre conduite de ce que vous avez été dans vos paroles, dans vos actions, dans vos pensées, car peut-être en cela avez-vous souvent offensé Dieu et le prochain. Tel qu'un soldat plein de courage, armez-vous contre les attaques du démon. Réprimez l'intempérance et vous réprimera plus aisément tous les autres désirs de la chair. Ne soyez donc jamais tout à fait oisif, mais lisez ou écrivez ou priez ou méditez ou travaillez à quelque chose d'utile à la communauté. Il ne faut cependant s'appliquer avec discrétion aux exercices du corps, et il ne convient pas également à tous. Tous ne sauraient suivre les mêmes exercices. L'un convient mieux à celui, l'autre à celui-là. Les uns nous sont nécessaires au temps de la tentation, les autres au temps de la paix et du repos. Autres sont des pensées qui nous plaisent dans la tristesse ou quand nous éprouvons de la joie en Dieu. Proposons-nous de vivre d'une fête à l'autre comme si nous devions alors sortir de ce monde et entrer dans l'éternelle fête. Et pour cela, préparons-nous avec soin dans ces temps difficiles par une vie plus fervente, par une plus sévère observance des règles, comme devant bientôt recevoir le Dieu, de Dieu le prix de notre travail. Si ce moment est différent, croyez que nous ne sommes pas encore bien préparés, ni dignes de cette gloire immense qui nous sera découverte en son temps, et redoublons donc d'efforts pour nous mieux disperser et mieux disposer à ce passage qui dit « Heureux le serviteur, dit saint Luc, que le Seigneur, quand il viendra, trouvera vaillant. Je vous le dis en vérité, qu'il l'établira sur tous les siens, sur tous les biens également. » Saint Luc, chapitre 12, verset 37. Oui, il est dit, je vous dis en vérité, car qu'il l'établira, est-il dit, sur tous ses biens, selon Saint Luc chapitre 12, verset 37. Amen. Amen. Et chers amis, souvenez-vous que Dieu vous aime. Oh oui. Et il est donc de mon devoir de vous aimer intensément. Et maintenant, pour nous quitter, je vous enlace et je vous embrasse tous avec tout mon amour. Et je vous dis, soyez bénis. À demain matin pour la suite de cette série. Au revoir.